collectif.
Bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. Bon vendredi, bon début de week-end. Le trafic est déjà lourd sur Québec et il le sera toute la fin de semaine avec encore une fois pendant tout le week-end fermeture d'un des deux ponts, celui de Québec qui est encore aux arrêts. Et si on fait un survol de tous les problèmes avant de se brancher du côté de Montréal et aller rejoindre notre ami Pierre-Aude, Audrey.
C'est vraiment pas beau sur les routes capitales direction Est, ça se passe entre Henri IV et Laurentienne. Ouest, c'est entre Beau-Royal et Laurentienne que ça ralentit. Laurentienne direction Nord d'ailleurs entre la capitale et Jean Talon. Il y a des problèmes à prévoir. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction sud, entre Charest et le boulevard Laurier, c'est difficile. Boulevard Laurier à l'approche des ponts, là, c'est toujours pas réglé non plus. Henri IV sud, c'est à partir de Wilfrid Hamel que ça ralentit jusqu'à l'entrée des ponts. Si vous êtes sur Duplessis sud, ça ralentit à partir de Charest jusqu'à l'entrée des ponts également. Charest direction est, c'est entre Henri IV et Robert Bourassa que ça se passe. Puis sur la 20, vous rappelez qu'il y a un accident direction ouest à la hauteur de Chemin des Îles. On parlait d'un 53 pieds tantôt là, qui est impliqué. Ça fait en sorte qu'entre Monseigneur Bourget et Chemin des Îles sur la 20 Ouest, très difficile. Tu parlais du pont de Québec, vous rappelez que ça ferme à partir de 20h ce soir, ça réouvre lundi midi.
Il est de retour du côté de Montréal après une saucette à Boston pour lancer sa saison régulière du côté de RDS. On s'en va rejoindre notre ami Pierre-Aude. Salut Pierre!
Salut Denis, bonjour Véro, bonjour Audrey,
salut
tout le monde. Oui, je reviens de ta ville préférée, en fait de ta ville préférée dans le hockey, évidemment.
Je pense que c'est ma ville préférée en général. J'en ai pas vu des tonnes, mais à chaque fois que je vois des images du nouveau hall d'entrée du TD Garden, du pont, de la rivière, des abords dans le coin de l'aquarium de Quincy Market, je deviens nostalgique un peu, je deviens jello un peu.
Mais je te comprends, c'est tellement une belle ville. Et puis, même si on est allé, nous, même pas 24 heures, on a atteint l'hôtel dans la nuit de mercredi à jeudi à 2 heures. Et donc, puis on a quitté l'hôtel à 16 heures pour aller au match. C'est pas très long, mais c'est juste assez. Je suis allé prendre une petite marche d'une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes. Nous, on habitait un hôtel qui est pas très loin du Fenway Park. Donc, on est un peu en retrait, là, de tout ce que tu viens de décrire, sauf qu'on est près de Copley Place, qui est un autre cœur assez important. C'est pas très loin de là où le marathon se termine, le fameux marathon de Boston. C'est une ville absolument magnifique. Et c'est pas juste magnifique. Denis, je sais pas si t'es d'accord, puis Véro, je pense que t'es allé aussi. Audrey, je sais pas, mais c'est pas une ville seulement qui est magnifique de par son histoire, son architecture. C'est une ville qui est magnifique par ses gens. C'est une ville jeune, hein? c'est une ville universitaire. Selon les quartiers comme nous, le quartier où on était, je me sentais comme un arrière-grand-père pratiquement hier en marchant. C'est plein de petits cafés modernes, c'est plein de restos, tables communes et ainsi de suite, avec des jeunes chefs qui lancent leurs opérations. Ouais. On n'a pas eu le temps de profiter de ça parce que c'est un, comme on dit en bon français, c'est un in and out très, très rapide pour nous, Denis, mais... C'est toujours un immense plaisir que d'aller à Boston. Et puis, un coup qu'on se retrouve à l'intérieur du TD Garden, qu'est-ce que tu veux? C'est un endroit qui demeure encore très, très magique, même pour les adversaires, même si c'est un terrain hostile. Ça demeure pour nous là, un endroit vraiment stimulant pour décrire du hockey.
Est-ce que j'ai raison de dire que ces deux équipes à problème qui s'affrontaient hier, puis je pense qu'on vient d'avoir peut-être un portrait d'une saison qui va être terriblement difficile pour les Bruins parce qu'ils sont rendus peut-être au bout de leur élastique où ils ont eu des saisons, on va se le dire, exceptionnelles. Et dans le cas du Canadien, je comprends que Sam Montembeau a volé le premier match, mais je pense que très rapidement, là, il y a des problèmes qui sont facilement identifiables.
Ah oui, t'as raison. Dans le cas, évidemment, je vais te répondre de façon générale. Je vais me garder une petite retenue, une petite gêne, comme on dit en bon québécois, avant de conclure trop rapidement, parce que les débuts de saison sont ce qu'ils sont.
Ben oui.
Il y a des débuts de saison où des équipes sont mieux que ce qu'on croyait pour, je sais pas, peut-être un mois et demi, deux mois. Tu sais, on dit toujours jusqu'à l'action de grâce américaine, le Thanksgiving américain, fin novembre. En général, c'est une très bonne fenêtre d'évaluation, c'est un bon échantillon. Et à l'opposé, tu as des équipes qui prennent leur envol progressivement à partir de ce moment-là. Donc, je vais attendre un peu, mais sais, éventuellement, il faut que ton destin te rattrape dans le hockey. Et les Bruins n'arrêtent pas de jouer positivement avec le destin ou avec leur destin. Les Pingouins ont fait ça longtemps.
Oui, c'est vrai.
Aussi.
C'est vrai.
Et là, les Pingouins, t'as vu, ça les a rattrapés l'an passé. Est-ce que ça les rattrape maintenant? Ils ont été corrigés dans leur premier match, mais ils ont gagné le deuxième. Alors, on va attendre encore un peu, mais c'est clair qu'on est capable de voir quels sont les effets des joueurs qui ont quitté ou quels sont les effets des joueurs blessés. Mais laissons le temps aussi aux joueurs qui sont là de prendre leur place. Écoute, moi, les Bruins, quand ils ont fait l'acquisition d'Elias Lindholm, moi, j'ai applaudi cette acquisition-là, Denis, parce que je trouvais qu'elle était pleine de sens. D'abord, il fallait s'assurer que ça passe sous le plafond salarial, mais je trouvais qu'elle était pleine de sens. Je ne sais pas si tu as entendu, à un moment donné, pendant le match hier, j'ai dit à Marc, il est de ces joueurs dont on pense qu'ils ont 36, 37, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont bons. Il y a seulement 29.
Oui, oui.
Et il fallait que tu combles finalement et éventuellement, même une saison plus tard ou trop tard, il fallait que tu combles le vide laissé par Patrice Bergeron et par David Krejci. Et tu as vu qu'elle a été, pour moi, le meilleur joueur des Bruins hier. Ça a été lui, ça a été Elias Lindholm.
Non,
alors, oui. Donc, il faut faire attention. Swayman a-t-il été convaincant hier? Moi, je pense qu'il n'a pas été mis à l'épreuve beaucoup. La défensive des Bruins, il y a plusieurs, Denis, qui la classent dans le top 5, si ce n'est pas dans le top 3 de la Ligue nationale.
Je pense qu'on la surévalue en raison du format des défenseurs. Il y a des géants, mais c'est des géants qui font... En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, beaucoup d'erreurs. Là, moi, je suis rendu à 3 matchs des Bruins. Ouais. Celui qu'on a vu ici dans notre cours au Centre Vidéotron. Le premier match face aux Panthers, où tu as commencé à me faire de l'intimidation par écrit aux environs de 19h20, 19h25.
C'était pas de l'intimidation, c'était de l'empathie. C'est pas pareil.
Ouais, c'est ça. On peut le voir d'une façon ou d'une autre, mais plus sérieusement, je trouve que déjà les défenseurs à grosseur qu'ils ont, ils se font booster. Ils se font tasser beaucoup. Peut-être que les gens ont sous-estimé les Bruins dans les dernières années et que là, ils compensent cette année et que ça fait peut-être partie des équipes surestimées parce que moi, pour l'instant, à date, j'ai rien vu de convaincant, ni devant le filet de la part des deux gardiens, ni de la part de la brigade défensive. Et même au niveau de l'offensive, je comprends que Pasternak est un talent naturel. Il a de l'air encore perdu sa glace. On a l'impression d'être en série. Brad Marchand.
Denis. Là, tu parles comme un fan plus que fini. Là.
Ouais, ben là, on est de même, hein, je veux dire. Il y en a quelques-uns du Canadien qui sont comme ça aussi, tu vas me dire.
Oui.
Là.
Je sais. Mais écoute, t'as pas tout à fait tort. Mais moi, j'ai hâte qu'on se reparle. On devrait enregistrer cette conversation ici, puis la faire rejouer le 26-27 novembre. on verra où est-ce qu'on en est à ce moment-là. Mais il y a déjà des choses tellement bizarres qui se passent. J'en parlais avec Marc hier. On est à peine à 2 matchs pour certains, aucun match pour d'autres. Est-ce qu'il y a un fil conducteur qui va s'installer? Je ne sais pas, mais sur une saison de 82 matchs, après quelques matchs, c'est un petit peu trop tôt. Mais on a assez d'expérience et de connaissances et de suivi de hockey pour comprendre que les Bruins sont certainement un carrefour giratoire.
Oh, oui.
Ça va être intéressant de voir de quel côté ils vont aller. Mais je pense qu'avec Lindholm qui est là maintenant, on a au moins réussi à colmater le gros trou qu'il y avait dans la ligne du centre. Puis tu sais, la ligne du centre, c'est pas banal là, dans tous les sports, mais au hockey, là, c'est particulièrement important. Du côté du Canadien, qu'est-ce que tu veux? On saura jamais tant qu'il ne jouera pas ce que vaut vraiment Patrick Laine dans l'équation, ce qu'il vaut vraiment dans le Canadien version 24-25. Il devrait jouer dans 2 ou 3 mois. Si le pari qu'il fait lui-même de ne pas aller en chirurgie est le bon pari, et le cas échéant, est-ce qu'il aura 100% de sa forme pour être à la hauteur de ce qu'il est capable de faire? Ça, on verra. Mais ça n'a pas été très long qu'on a vu tout de suite l'impact. Et si un soir, tu as quelques joueurs qui sont un peu plus fatigués, si un soir, tu as quelques joueurs qui prennent... un peu moins de place et de lustre, comme on a vu hier avec le premier trio.
Ouais, Martin Saint-Louis n'avait pas de l'air satisfait de l'effort de certains joueurs après le match. Hein?
Mais avec raison, Denis. Avec raison. Nous, on le voyait très bien d'en haut. Puis moi, ben, je me suis dit à un moment donné, voyons, je regardais Marc à mes côtés, on ne voit plus David Savard. Mm. Pourquoi est-ce que Slavkovski est remplacé par Anderson? Ben, ça fait partie aussi de ce que Martin Saint-Louis avait annoncé en début de saison. Il a dit, je vais être un entraîneur plus dur. Pas nécessairement plus gueulard, mais plus dur, plus rapide dans ses décisions, peut-être moins tolérant. Et c'est ce qu'on a vu hier soir. Ça a donné une petite étincelle, d'ailleurs, en troisième période. Mais comme a dit Gallagher, c'était trop tard. Alors, donc, on revient à ton exposé de départ. Des équipes qui ont des problèmes, des équipes qui ont des trous évidents.
Oui.
Je pense que là, on ne se trompe pas. Est-ce qu'on va pouvoir combler? Quels seront les vrais Bruins et quels seront les vrais Canadiens d'ici un mois ou deux? Il faut attendre pour le voir concrètement.
Et dans le cas du Canadien, je trouve ça intéressant, Pierre, parce qu'il y a comme un phénomène que plusieurs ont observé au niveau des prédictions. Les observateurs de la province de Québec disent que le Canadien va se battre pour une place en série. Il y en a qui sont un petit peu plus optimistes, il y en a qui sont un petit peu plus négatifs. Et dans le reste de la presse nord-américaine, la plupart mettent le Canadien en queue de peloton, sans aucune marge de manœuvre pour essayer de faire les séries. Puis c'est un peu ça la question et l'énigme de la saison. Il y a des gens qui ont vu de belles choses puis qui espèrent beaucoup de ce club-là. Et on se demande si ce sera peut-être pas la plus longue saison. Évidemment, les blessés, on contrôle pas ça. Ça part d'une drôle de façon. On s'est fait couper un peu le plaisir pendant les matchs pré-saison. Mais moi, j'ai hâte de voir quelle direction va prendre le Canadien. Puis avec un coach un peu plus exigeant, puis peut-être un peu moins one of the boys, on peut le dire comme ça. Comment tous les jeunes talents du Canadien vont s'ajuster par rapport à ça? Il y a des trucs intéressants là-dedans. Là.
Ben, mais en, puis c'est parce que tu parles des jeunes du Canadien, puis c'est vrai que le Canadien demeure une équipe jeune. Ben je pense qu'il est encore la deuxième plus jeune. Mais la jeunesse, c'est relatif dans le sport, hein? Oui, tu peux être la plus jeune en statistique, c'est-à-dire statistiquement, l'âge des joueurs, puis tu les additionnes, puis tu fais une moyenne, puis bon, t'arrives à un âge moyen. Mais moi, je parle souvent aussi d'âge moins tangible, les années d'expérience, mais la maturité de chacun des joueurs. Et si tu regardes comment Nick Suzuki a progressé au cours des dernières saisons, et c'est pas pour rien qu'on l'a nommé capitaine, il serait le premier à dire « Ouais, je suis encore jeune, mais c'est plus une excuse dans mon cas. »
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Suzuki a un camp ordinaire, puis il y a deux matchs ordinaires, le même contre les Leafs. Alors, donc, c'est lui, dans son cas, je suis sûr qu'il fait fi de son âge réel, puis il regarde beaucoup plus quel est son âge de joueur de la Ligue nationale de hockey. Même chose pour Slavkovski. On va dire, ben voyons, 20 ans, 21 ans. Oui, mais il reste que tu regardes la courbe de progression. Puis ce que tu veux voir, c'est que est-ce que tu continues à garder ta courbe de progression? On va s'entendre, Denis, c'est pas linéaire.
Non,
c'est
non.
Correct d'avoir des hauts puis des bas, puis c'est correct de commettre des erreurs. Mais ce que tu veux voir, c'est est-ce que la courbe de progression continue jusqu'à maintenant, et ce ne sont que deux matchs, puis le calendrier préparatoire a probablement été un des plus bizarres que j'ai vu dans ma vie. Moi, personnellement, je te l'ai dit à la fin du camp, Denis, j'étais incapable de juger cette équipe-là. Et je pense que les entraîneurs eux-mêmes n'étaient pas capables de juger leur propre équipe.
Quand tu parles des matchs préparatoires, tu parles bien sûr de la série 4-7 face aux Sénateurs d'Ottawa. Là.
Oui, ben, au moins ça avait été ça. On aurait eu quelque chose à se mettre sous la dent, mais c'était bien plus les Sénateurs de Belleville qu'on a eu de Laval.
Oui, c'est vrai.
Alors, tu vois ce que je veux dire? Alors, t'as raison, puis t'as pas raison. Alors, je sais pas. Mais tu sais quoi? Ça tient pas à grand-chose, hein? Terminé, je sais pas moi, 13e sur 16 dans l'Est, ça tient pas à grand-chose. Si tu regardes, là, puis moi, je refais mes calculs à chaque match, puis je regarde le classement de l'année passée, Ottawa avait seulement 2 points de plus que le Canadien. Mais Ottawa avait 7 victoires de plus. Comment tu classes une équipe, Denis? La classes-tu par les points? Par le rang au classement? Est-ce que 13e dans ton association, c'est vraiment aussi près de la cave qu'aussi près d'une place en série.
Tu
sais ce que je veux dire?
Oh, oui.
Alors, tu sais, à 37 victoires là, par rapport à 30, tu dis, ouais, 7 victoires, c'est beaucoup là, sur 82 matchs. Alors, je sais que nous, on se prête au jeu, puis RDS nous le demande à chaque année, puis moi, je le fais en m'amusant, mais c'est très, très, très difficile quand vient le temps d'établir les classements de 1 à 8 par division. Puis après ça, qui va entrer en série comme équipe repêchée? C'est un exercice qui est de plus en plus compliqué. Puis c'est, tant mieux, c'est de plus en plus compliqué, Denis. Parce que les gens disaient tout le temps, à l'époque, il n'y avait pas de plafond salarial, bien, les équipes riches continuent à s'acheter des championnats.
Mm-hmm.
Bien, maintenant, tu as une certaine parité, puis au moins tu as des équipes qui finissent par rebâtir et qui relancent de la bonne façon, du moins à moyen puis long terme. Puis je te dis ça, puis en même temps, il y a des équipes qui n'y arrivent jamais, comme les Sabres de Buffalo. Écoute, les Sabres sont 0-3. Je comprends qu'ils sont allés en Tchéquie, là. Mm. Mais Denis, ils sont 0-3, puis ça fait 100 ans qu'ils n'ont pas participé aux séries, tu sais.
Puis il y en a plusieurs qui disent, dans leurs prédictions, tu sais, ben des gens qui s'amusent à faire leurs prédictions annuelles, cette année, c'est l'année des Sabres. Ouais, peut-être pas encore.
Ben, peut-être pas encore, c'est ça. Alors, tu vois, c'est la beauté du sport, mais c'est en même temps le côté très, très cruel du sport, le côté très frustrant. C'est qu'on veut s'accrocher à des paramètres tangibles puis dire, bon, ben si on met ça un à la suite des autres, ça va donner un résultat intéressant et ça va donner un résultat même au-delà peut-être des attentes, mais on ne peut pas dire ça parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne sur le terrain.
On en parlait tantôt, Pierre. Il n'y a rien qui ressemble plus à un fan fini de sport qu'un autre fan fini de sport. Le début de saison des Bruins de Boston, il y a des gens qui pestaient. Comment ça se fait que c'est pas Jeremy Swayman qui débute la saison contre les Panthers, puis qu'Orpisalo y a échappé des buts, et ainsi de suite. Et je regardais les partisans du Canadien aujourd'hui et hier. Comment ça se fait que c'est pas Montembeau qui est devant le but? Il en a arrêté 50 la veille. Il y a le gardien, il est hot, faut le retourner. On aime ça, parler des gardiens de but au Québec. C'est révolu, hein, le temps d'un gardien de but qui va gauler 82 matchs. Faut se rendre à l'évidence, même des gardiens qui signent des contrats de 8 millions puis de 10 millions par année.
La question a été posée à Swayman, Denis.
Oui, il voulait
lui. Elle lui a été posée à Jeremy Swayman. Parce qu'évidemment, tu signes une nouvelle entente de 66 millions, c'est clair que tu vas te faire poser la question. Mais tu sais quelle a été sa réponse?
Il a dit quoi?
Il a dit 55 matchs.
OK.
Et il n'a même pas dit « mais dans le fond, j'aimerais en jouer 79,
55.
Mais réalistement, je vais en jouer 100. » Ça s'est sorti spontanément de sa bouche.
OK.
Alors, tu vois, la jeune génération, puis le gardien principal, ou le gardien numéro un, appelle-le comme tu veux, ne se fait plus d'illusions. À ceux qui disent qu'on aurait pu revenir avec Samuel Montembeau hier, c'est parce que si tu regardes le 2-2, oui, tu peux dire 2-2, c'est pas si mal. Mais c'est 3-4, Denis.
C'est ça, là.
Puis c'est 4-6. Alors, c'est pas seulement le 2-2. Le 2-2, c'est combien est-ce qu'il va y en avoir cette année avec celui d'hier? Il va en avoir 15.
Oh là là, OK. Ça veut dire deux matchs en 24 heures. Là.
Exact. Oui. Ça, Denis, c'est... Bon, ça se peut, exemple, comme le week-end du Super Bowl, t'en as deux en après-midi chez toi. Bon, c'est moins pire, tu vas dire.
Oui.
Mais il reste quand même que tu as ce défi-là pour 30 matchs. 30 matchs, si je l'ai calculé hier, c'est 37% de la saison. Pas rien. Là.
C'est du stock.
Alors, tu es obligé de gérer ça. Puis, tu es obligé de gérer le 10 octobre en fonction du 18 octobre ou du 17 octobre. Je lance des dates comme ça. Mais tu es obligé de gérer en fonction de la semaine suivante puis de la semaine suivante. Puis, tu es obligé de gérer aussi en fonction du fait que et j'en parlais avec Marc hier dans le cas de Swayman, pourquoi il n'était pas là contre la Floride. Swayman est resté très en forme avec l'Université de Boston parce qu'il s'entraînait avec eux, tu le savais probablement.
Oui, oui.
Et c'était très intense, c'était très sérieux. Mais tu sais, c'est comme un pilote de F1 qui fait du simulateur. C'est pas comme si tu es sur le vrai terrain à accumuler de l'expérience puis des tours. Bien, Swayman n'a pas accumulé du kilométrage sur la vraie patinoire de la Ligue nationale de hockey, ne serait-ce qu'en match préparatoire où on dit que c'est pas comme la vraie saison.
C'est vrai. Puis alors, tu parlais de la gestion de calendrier aussi. Moi, j'ai l'impression que de plus en plus, on prend des décisions pour les 2-3 semaines à venir, puis on s'en tient à ça quoi qu'il arrive, que Samuel Montembeau fasse 50 arrêts dans un match ou qu'il laisse passer 6 buts en 20 tirs. Moi, j'ai l'impression que les décisions restent sensiblement les mêmes. Dans des 2 matchs en 2 soirs, on fait reposer notre premier gardien pour après ça leur sortir ben, vraisemblablement demain face au Sénateur.
Ben, écoute, disons que la tendance, là, elle est là. 55 à peu près. 55-27, ouais. 57-25. Bon, tu peux peut-être aller jusqu'à 60 là, dans le cas de certains, mais c'est clair maintenant que la tendance est comme ça. Alors, à moins de grandes, grandes exceptions. Alors, je répète, il ne faut pas juste regarder le 2-en-2 parce que si tu fais ça, tu vas dire, bon, Primo va être là déjà pour 15 matchs automatiques dans la saison. C'est peut-être pas si automatique que ça, mais dans le fond, tu pourrais dire ça. 15, 25, il y en reste seulement une dizaine d'autres. Puis là, qu'est-ce qui va arriver si on place toujours Primo dans le contexte de 2-en-2 où l'équipe est beaucoup plus vulnérable lors du deuxième match? C'est pas aussi simple que ça. Moi, je dis qu'il faut pas juste regarder le 2-en-2 de cette semaine. Il faut regarder le calendrier très dur en commençant, qui est 4-en-6.
C'est ça.
Et qui t'amène contre Toronto, Boston, Ottawa et Pittsburgh, puis je comprends que Pittsburgh, c'est plus l'équipe de l'époque. Ça demeure quand même les Pingouins, Sidney Crosby, Evgeny Malkin et Christopher Letang.
Pierre, des fois, j'ai besoin de ton aide pour savoir si c'est une grosse nouvelle dans le monde de la F1 ou pas. Toyota qui revient en F1, c'est une grosse nouvelle, ça?
Bien, c'est une grosse nouvelle, oui puis non, parce que tout de suite, tu dis Toyota, c'est gros, c'est énorme. Il faut faire attention. C'est une alliance technique dans le cas de Toyota. Ce n'est pas Toyota qui revient en F1, ni comme écurie, ni comme motoriste.
C'est, okay, ils font quoi d'abord?
C'est un partnership avec une écurie déjà en place, c'est ça?
Oui, c'est ça. Toyota Gazoo Racing, c'est un peu la division, la division sport motorisée. De Toyota. Donc, okay. C'est pas Toyota qui revient comme écurie, comme on avait vu à l'époque, mais ça devient le partenaire technique officiel. Donc, c'est une relation qui va se développer entre Haas et Toyota, et c'est une relation où on va littéralement partager le savoir,
la connaissance technique
et les ressources. Et je trouve ça excellent pour les deux parties, parce que Toyota n'avaient pas eu un très grand succès, si tu te rappelles, en F1, Denis. Ils avaient très bien lancé le programme. Ils avaient travaillé pendant un an à Londres avec un pilote qui s'appelait Alan McNish à l'époque, qui était excellent. Mais le programme d'écurie n'a jamais vraiment décollé. Alors que là, Toyota dit, ben écoutez, d'abord, il n'y a pas de place. Et Andretti en a été la preuve. Puis je reviendrai à Andretti parce qu'il ne lâche pas, Michael. Hein. Mais alors Toyota a dit, de toute façon, il n'y a pas de place pour l'instant. Alors nous, on veut voir comment on peut donner une nouvelle plateforme à nos ingénieurs. On est déjà impliqué, Toyota Gazoo, en rallye, hein, dans le championnat mondial de rallye. On est aussi impliqué dans le championnat d'endurance. Mais là, on va donner un nouveau défi aux ingénieurs. Puis tu n'oublies pas une chose, Denis, c'est qu'en 2026, les moteurs hybrides prennent une tournure plus accentuée, hein.
Oui.
Ça va être la moitié de la course là, que tu vas devoir faire avec les énergies alternatives. On ne sait pas vers quel type de carburant on s'en va, mais la F1 a promis la neutralité carbone en 2030.
Il peut-tu y avoir des changements complètement là, imprévus au niveau des équipes de tête parce que quelqu'un va trouver une façon d'exploiter ces technologies-là ou... Ceux qui ont le plus de budget, de facto, vont être les mieux renseignés, vont avoir les meilleures technologies, vont faire les meilleurs ajustements?
C'est une très bonne question, Denis, parce que... et la réponse, c'est oui, c'est très possible. Maintenant, c'est pas toujours une question de budget. C'est pas pour rien que... Ben, c'est-à-dire que c'est pas une question de budget. Ça en est une, à la base, si tu veux, exemple, leurrer Adrian Newey chez Aston Martin. Puis que t'es Lawrence Stroll, alors oui, ça devient une question de budget. Mais un coup que t'es dans l'usine, puis que t'es sur la planche à dessin, puis que t'es dans les simulations d'ordinateur, puis que t'es en soufflerie et tout ça, Là, ce n'est plus nécessairement une question de budget. C'est une question, est-ce que les cerveaux qui travaillent pour toi s'en vont dans la bonne direction? Et c'est là que Newey a été très fort dans le passé. C'est que Newey a été très fort, lui, toujours pour amener le règlement technique à la limite, presque même de l'autre côté de ce qui était légal ou illégal, mais il réussissait toujours à l'amener à un niveau encore plus loin. Est-ce que ce sera lui avec les nouvelles réglementations de 2026? Lui a dit, j'y vais pas pour l'argent, quoique quand le chèque rentre, t'es content. Là. Mais c'est là, ou ça, ou à la pêche, t'aimes peut-être mieux recevoir le T4 à la fin de l'année. Mais ce que je veux dire, c'est que Newey a dit, moi, je veux être capable de prouver ou me prouver, et donc prouver au monde entier, que je serai encore, il ne dit pas de même, mais ce qu'il veut dire entre les lignes, je vais être encore le meilleur.
Encore là, pour, ouais.
Avec les nouveaux règlements. Puis là, ben, ce serait Aston Martin qui en profiterait. Donc oui, Adrian Newey peut peut-être complètement tourner Aston Martin en 2026 en gérant le mieux, ou mieux que les autres, en gérant les nouvelles règles. Mais elles sont ambitieuses, les nouvelles règles. Il y a quand même des plateformes qui restent. Le moteur hybride, bon, ça reste. Quels seront les... et on connaît le prototype, hein, tu te rappelles, on en avait parlé, mm-hmm. Les voitures seront un peu plus étroites, ouais. un peu plus réduites dans leur dimension. Alors on verra qui travaille avec ça, mais le moteur hybride reste, l'effet de sol va rester, donc tu t'en vas pas complètement dans une révolution tant que ça, là. Il s'agira de voir qui peut faire mieux, et ça c'est sûr que c'est très attrayant pour des motoristes comme Toyota, de vouloir être associé avec une écurie pour profiter du banc d'essai de la F1. Et en retour, Toyota va mettre à sa disposition les ingénieurs. Ceci dit, ce que j'ai hâte de voir, Denis, et puis je lisais l'article aujourd'hui, il faudra voir comment tout ça va s'appliquer sur le terrain. Parce qu'oublie pas que tu as un plafond budgétaire en F1. Et tu peux pas déléguer à une tierce partie une partie du travail que tu veux pas voir sous le plafond budgétaire, tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Alors, tu peux avoir des partenaires, et les partenaires doivent s'insérer dans le contexte du plafond budgétaire. Ça ne peut pas être une valeur ajoutée déguisée pour te permettre ou si tu veux tenter de violer les règles du plafond budgétaire.
Pierre, à 3 victoires, 2 défaites depuis le début de la saison, je me questionne, est-ce que tu écoutes encore tes Packers la fin de semaine pour Denis, te changer les idées? Ah ben, t'es bougonne.
Même quand tu gagnes ces temps-ci, je bougonne. que... ben oui, mais il y a de quoi bougonner, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'ailleurs, Lynn est à côté de moi, heureusement qu'elle est là pour me calmer. Mais c'est parce que, Denis... Il n'y a rien qui marche ensemble depuis le début de la saison. Bon, Jordan Love a été blessé. Le remplaçant Willis a été pas si mal.
Ouais.
On a laissé aller le porteur de ballon, Aaron Jones, pour amener Jacobs. Jacobs, il a été en dents de scie. Imagine-toi, il a eu seulement son premier touché la fin de semaine passée. Puis on a un botteur qui botte partout, sauf entre les deux poteaux. Alors,
pourtant, il y a de l'espace pas pire entre ces deux poteaux-là.
Oui, il y a de l'espace pas pire. Dans la NFL, là, je peux dire une chose, l'espace, il est grand dans la NFL. Tu es supposé être capable de passer ça pas trop assez facilement, au moins à 50 verges. Alors... ceci dit, mais regarde, tu vois, on parlait du sport tantôt. Mm. Voilà, merci d'ouvrir la porte. Tous les experts, puis je me considère pas un expert, là, je suis un amateur puis un observateur de la NFL, quand même assez initié là, depuis tellement longtemps. Unanimement, on plaçait les Vikings du Minnesota dernier, mais bon dernier, dans la section des Packers, la section Nord. Quelle est l'affiche des Vikings? 5-0.
Les derniers, c'est les Packers présentement. Je sais qu'il y a plusieurs équipes à 3 victoires, 2 défaites, mais ils les ont mis dans le fond. Là. Ouais.
Oui, mais c'est un très bon exemple, la NFL. Puis, même ceux qui nous écoutent présentement, qui suivent peut-être pas la NFL de façon très suivie, en fait, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas de façon très, très, très constante ou religieusement, comme moi je le fais, il reste que c'est... On s'en va dans toutes les directions. Ça n'a aucun sens de voir comment les Bengals se tirent dans le pied à chaque match. Ça n'a aucun sens de voir Dallas continuer à tituber. Ça n'a aucun sens de voir les 49ers en arracher autant, bien qu'il y a des blessures importantes là aussi. Alors, tu vois, d'un côté, certains diront c'est la beauté du sport. De l'autre côté, certains diront c'est la méchanceté, la cruauté du sport. Parce que y a des tendances parfois qui s'installent, puis on ne les voyait pas venir. Alors, mais écoute, il y a seulement 5 matchs sur 17. Alors, il reste encore, comme dit le cliché, beaucoup de football à jouer d'ici le mois de janvier.
Pierre, prends soin de toi. On t'envoie plein d'amour. Passe une belle fin de semaine.
Ben merci. Je vous souhaite une excellente fin de semaine aussi. Et continuons à nous écrire, mon cher Denis. Je trouve ça intéressant de partager un match des Browns à distance.
Ah, mon Dieu,
J'ai plus besoin d'ouvrir la TV. Pierre, quand tu m'écris, je sais que ça va pas bien.
Ben oui, mais je répète, ce n'est pas pour narguer.
Non.
C'est pour te soutenir dans un moment difficile.
C'est là qu'on reconnaît les vrais amis, Pierre.
Et voilà, c'est exactement la meilleure conclusion.
Vous allez avoir une belle saison, c'est le fun.
Écoute, c'est merveilleux. Mais en retour, tu as le droit de m'écrire pendant un match des Packers aussi. Tu sais ce que je veux dire? Je te permets de faire ça aussi.
Ben là, si je commence à t'écrire pour les Packers en plus du Canadien, là, tu vas me dénoncer à la police, là, je pense.
Hey, ils ont d'autres chats à fouetter, on va leur laisser, leur laisser ça.
À Montréal et à Québec, oui.
Ils sont malheureusement trop occupés. Bon, ouais, je vous souhaite une excellente grande fin de semaine. Oui. Profitez-en bien.
Yes, toi aussi, Pierre.
Vendredi prochain. Salut.
Notre ami Pierre Houd, donc, qui a lancé sa saison du côté de Boston hier avec la gang de RDS. Et la fin de semaine du Canadien, ben, c'est un match face aux Sénateurs d'Ottawa. Ouais. Demain, 16h32.
Pingouin lundi.
Oui, exact. Un 4 en 6, un 4 matchs en 6 games, ça va vite. Nouvel album disponible depuis ce matin, The Offspring, Make It All Right, à Boulevard.